à tous et à toutes. Promis, il n'y a que des humains autour des micros de Studio Zef cet après-midi. Et j'ai écrit cette introduction tout seul, comme un grand. Mais pour parler d'intelligence artificielle, j'aurais pu demander au désormais célèbre ChatGPT, ou Bard de chez Google, ou encore Baidu venu de Chine. Il n'aurait à n'en pas douter créé un texte tout à fait pertinent sur les usages que l'on fait d'eux, du pouvoir déjà important et toujours grandissant dont ils disposent, et des enjeux de développement et de régulation dont ils font l'objet par les grandes firmes et les États. Mais non, nous allons rester entre humains, ou presque, pour parler de ce sujet totalement vertigineux qu'est l'intelligence artificielle. Bienvenue à tous et à toutes dans la lorgnette. Et bonjour à mon invité Thomas De Vogel.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur et responsable du Master 2 informatique à l'université de Tours, département informatique, situé à Blois, ici même. Donc bonjour à vous et merci d'être venu en studio donc, pour parler de ce sujet qui est l'intelligence artificielle, un sujet que je voulais aborder depuis longtemps. On en parle, c'est un sujet qui traverse l'actualité. Il s'invite à chaque fois qu'une nouvelle étape technologique est franchie, et donc il est largement temps que Studio Zef fasse une émission sur le sujet. Est-ce qu'on peut représenter rapidement le département informatique de l'université de Tours, si tu veux?
D'accord, l'université de Tours, c'est une université où il y a à peu près 24 000 étudiants. Il y a 5% des étudiants qui sont sur Blois. Et donc, sur Blois, on a du droit, de l'informatique et un IUT. Donc, en informatique, on a une licence et un master d'informatique. On a à peu près 60 étudiants en licence 1, une quarantaine en licence 2 et licence 3, pareil. Et on a un master où à peu près 25 étudiants. Donc, voilà. Donc,
ça marche. Est-ce qu'on peut donc parler évidemment d'intelligence artificielle et redéfinir quand même pour nos auditeurs, auditrices, la dater un petit peu dans le temps, à quel moment l'intelligence artificielle apparaît, le terme d'intelligence artificielle apparaît dans les conversations des scientifiques, des chercheurs, et puis à quel moment elle rentre vraiment, sans que le commun des mortels, j'ai envie de dire, en soit vraiment conscient, mais à quel moment elle rentre vraiment dans les usages quotidiens?
Donc c'est un concept qui date quand même des années 1950, donc c'est pas tout à fait récent. Hein. Le problème, c'est déjà de le définir, parce que c'est un concept assez flou, assez bizarre. Tout le
totalement
monde met ce
vertigineux,
qu'on veut,
comme je disais. Ouais.
Et très lié à la science-fiction, à certains films. Hein. Donc on peut avoir des images très très différentes de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est pas forcément proche de l'intelligence humaine. Hein. On en parlait que tu pouvais écrire toi-même ton texte ou que quelqu'un allait écrire ton texte, ça ne savait pas faire la même chose non plus. Donc déjà, l'intelligence, c'est un concept qui dépasse l'humain, parce qu'on peut parler d'une ville intelligente, d'un système de feu rouge intelligent, d'une machine à laver intelligente. Tout peut être intelligent aujourd'hui. Donc qu'est-ce que l'intelligence? Donc on parle souvent d'un système qui est capable de comprendre, d'apprendre et de s'adapter. Donc si on prend un système de feu rouge intelligent, ben, en fonction des bouchons, il va favoriser certains axes et d'autres, et pour réduire le nombre de kilomètres de bouchons. Donc ça, c'est une intelligence, ce n'est pas humain. Donc l'intelligence artificielle, après, c'est assez large. Donc d'un point de vue de Monsieur Tout-le-Monde, c'est quand un système est capable de faire des choses qui sont plutôt liées à ce que ferait un humain avec son intellect, qu'on parle d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est à peu près comment on peut expliquer l'intelligence artificielle.
L'arrivée des ordinateurs, j'imagine, a accéléré cette notion d'intelligence artificielle. Il me semble malgré tout que c'est un terme relativement nouveau, en tout cas qui est vraiment rentré au-delà de la science-fiction. Ouais. C'est un terme qui est assez nouveau, notamment avec ces robots conversationnels que je mentionnais.
Oui, alors avec ChatGPT, tout ce que notamment. C'est chat et tout ça, ça fait une nouvelle vague sur l'intelligence artificielle. Donc on dit qu'on est à la troisième saison, troisième été de l'intelligence artificielle.
D'accord, ouais.
Pour dire que voilà, donc il y a eu souvent des moments où on pensait que ça allait tout révolutionner, que l'humain allait tout perdre, hein, avec des films qui allaient avec. Et après, on s'est aperçu que dans toutes les promesses qui étaient faites, ben, il y en a certaines qui étaient vraies, mais que la plupart étaient trop ambitieuses encore pour ce genre de système, et donc ne pouvaient pas atteindre les objectifs qui étaient vendus. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a encore, je pense que je glisse un peu vers la science-fiction, est-ce qu'on a toujours besoin d'un humain pour créer de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on sait si l'intelligence artificielle est capable de reproduire, entre guillemets, elle-même ?
Alors, on va de plus en plus vers des intelligences qui sont capables de programmer,
ouais.
Donc d'être capable de programmer une autre intelligence, pourquoi pas,
ouais.
D'être capable aussi d'orchestrer d'autres intelligences. Donc, si demain, pour ta compagne, tu dis ben, « je vais lui faire un cadeau ben, », tu peux avoir une première intelligence artificielle qui va dire ben, « vu tout ce qu'elle a acheté, elle aime bien les fleurs rouges ». Donc, il va aller regarder quelles sont les fleurs rouges qui sont en vente à différents fleuristes et qui va programmer ta voiture pour aller chercher, qui est autonome, bien sûr. Pour aller chercher des fleurs, qui va passer la commande automatiquement au fleuriste et tu vas voir ta voiture revenir avec des fleurs rouges.
On est encore dans la science-fiction, quand même.
Voilà, on est encore dans la science-fiction, mais on n'est pas si loin de ça.
Ouais, ouais, okay.
C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de livraison automatique, il y a des systèmes qui font ce genre de choses, il y a des systèmes qui vont choisir des cadeaux pour la personne de ton choix.
La voiture autonome est déjà en test, hein, il me semble.
Il y a des tests réguliers. Alors, voilà, après, il y a des avantages et des inconvénients. Ça fait énormément peur pour plein de raisons tout à fait compréhensibles.
On va y revenir, évidemment, sur les limites.
Donc, voilà, essentiellement sur des problèmes juridiques et des problèmes de responsabilité aussi.
Est-ce que l'intelligence artificielle a pénétré, voilà, encore une fois, sans, j'imagine, je vais essayer d'éviter de me répéter, mais sans qu'on s'en rende forcément compte, à peu près toutes les strates de la société, toutes les disciplines. Alors, dans la médecine, on en parle beaucoup, l'artisanat, tout ce qui nécessite de la technique. Est-ce que l'intelligence artificielle a été développée dans toutes les strates de ces zones-là?
Je pense dans la plupart.
Ouais.
Alors après, j'avais entendu une discussion avec Michel Serres qui était intéressante, qui disait que ben, si on considère que l'intelligence humaine, c'est là où la machine ne sait pas faire...
Ouais.
Que la personne qui va être la plus intelligente, là où l'ordinateur est là où un robot a le plus de mal, ça serait un sportif de haut niveau. Voilà. Et donc, il définissait à l'époque que Zinedine Zidane était la personne la plus intelligente parce que c'était la personne la plus difficile à remplacer.
La plus apte à ne pas être une personne.
Ouais.
D'accord.
Par une personne, pas physique, mais donc un robot intelligent.
Ceci étant, dans le sport et notamment dans l'handisport, j'imagine que la technologie est... Donc, de fait, par extension de l'intelligence artificielle, a complètement pénétré ce monde-là. Quoi. À partir du moment où on a besoin de technique, et dans les sports mécaniques, j'imagine que c'est toutes
dans,
les...
Dans tous les sports, ouais. Si vous prenez un sport, il y a des caméras tout autour d'un terrain. Ouais. Dès que c'est un sport avec beaucoup d'argent et beaucoup de haut niveau, et donc vous allez avoir des intelligences qui vont analyser les mouvements de chaque... personne. Hein. Il y a déjà eu un film aussi pour essayer de concevoir la meilleure équipe au meilleur rapport qualité-prix. Donc ne pas essayer d'optimiser chaque personne, mais optimiser l'équipe, ce qui est un autre problème. Et donc de ne pas prendre les meilleurs joueurs. Ce n'est pas en prenant les meilleurs joueurs qu'on va faire la meilleure équipe.
Donc le sportif ne peut pas forcément encore être remplacé. Par contre, tout ce qu'il y a autour du sportif est déjà largement absorbé par l'informatique et l'intelligence artificielle. Quels sont les grands producteurs, les grands développeurs d'intelligence artificielle? Alors évidemment, on pense à Google, mais y en a d'autres, j'imagine.
Alors, il y en a d'autres. La plupart sont aux États-Unis. Hein.
Ouais.
Il faut être clair que dans la Silicon Valley, c'est la très, très grosse majorité viennent de là. Donc après, on va l'avoir aussi dans le monde militaire américain. Donc les Chinois ne sont pas si en avance que ça dans ce domaine-là. En Europe, on a été très bon, il fut un temps, mais faute de moyens, on a absolument été largué dans beaucoup de domaines. Donc il y a quand même une société française qui émerge, qui s'appelle Mistral.
Ah, j'allais en parler
qui apparaît. Je ne peux pas vraiment dire quelles sont ses compétences vis-à-vis des grands gros systèmes. Et après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur certains modèles, il faut quand même brasser des milliards pour essayer d'améliorer des modèles existants.
ChatGPT, on a beaucoup parlé de lui. C'est par là que les grands débats et je crois que l'arrivée de la notion d'intelligence artificielle par le grand public s'est faite. C'était un logiciel en open source, mais c'est de notoriété publique maintenant. Ils ont été rachetés ou travaillent en collaboration étroite avec Microsoft. Alors, est-ce que l'open source est compatible, le développement d'un logiciel open source est compatible avec une grande firme de la tech et de la Silicon Valley?
Alors ça, c'est une question. Il y en a certaines qui désirent laisser en open source. Alors on ne sait jamais si c'est vrai jusqu'à la fin. Donc à partir du moment où il faut quand même avoir des milliards supplémentaires pour arriver à faire la version suivante, où il y a des responsabilités qui sont colossales d'un point de vue juridique et ainsi de suite, bah, l'open source a tout de suite a des limites pour certaines personnes et c'est des choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on essaye d'améliorer le modèle? Est-ce qu'on essaye de gagner plus d'argent avec ces modèles-là? Donc, et là, en fonction de si on a des actionnaires, si on est en open source, on n'aura pas les mêmes résultats.
J'imagine. L'IA fascine autant qu'elle inquiète. Vous êtes, j'imagine que vous aussi, vous êtes à la fois impressionné par les possibilités des utilisations qui semblent infinies et parfois inquiet par les usages qui sont déjà faits et qui seront faits dans le futur. On parlait juste avant la prise de direct que l'intelligence artificielle est un outil et qu'au même titre qu'un silex à la préhistoire ou qu'une tronçonneuse plus récemment, c'est la façon dont on s'en sert qui en fait l'usage et qui en fait sa destinée.
Ah bah c'est certain, vous pouvez avoir de l'IA dans tous les domaines, hein, pour aider des handicapés, pour faire une arme de guerre plus précise et plus autonome, donc ce qui pose des vrais problèmes. Donc par exemple, on parle dans les fantasmes de tout ce qui est robot autonome tueur. Donc si on prend des robots qui existent, qui sont quand même déjà bien autonomes, et qu'on les couple à des systèmes d'armes, on peut très bien avoir un robot qui, par lui-même, définit qui doit tuer ou qui ne doit pas tuer. Et là, on n'est pas loin de Terminator, si on revient à la science-fiction.
Si on revient à la science-fiction et à la culture populaire. J'imagine que ces choses-là, et vous parliez de l'armée américaine, qui doit être... J'en doute pas à la pointe sur ces dispositifs-là, travaille sur des choses. Alors, j'imagine en ciblant, en étant très précis et donc en rentrant des données, toujours l'humain derrière qui va essayer de contenir. Mais il n'empêche que j'imagine qu'il y a cette vocation-là de disposer de robots ou d'intelligence artificielle pour aller sur le terrain ou être sur les terrains de guerre.
Oui, alors sur les terrains de guerre, même sur... le terrain de la vie de tous les jours. Ouais. Par exemple, pour essayer de détecter quelle personne est un terroriste, pour essayer de détecter en Chine quelle personne est d'origine ouïghour. Mmh. Donc, il y a plein de déviances possibles. Donc, il y a par exemple une des plus grosses sociétés américaines qui s'appelle Clearview, qui ont collecté un peu plus de 30 milliards d'images sur Internet de Monsieur Tout-le-Monde sans forcément leur demander, hein, même plutôt sans leur demander. Et donc, qui est utilisé par plus de 600 services de police américaine pour détecter des personnes qui sont recherchées, des personnes qui sont terroristes, et ainsi de suite. Donc, okay. C'est des genres de systèmes qui sont normalement plus ou moins interdits en Europe, qui posent débat, mais qui vont être en test aux Jeux Olympiques,
okay.
À Paris.
Clearview qui me fait inexorablement penser à Skynet. On en revient encore à Terminator et à la science-fiction. On va parler évidemment du coup d'éthique et de morale notamment. Après la pause musicale, on va s'écouter Don't Look Back in Anger.
Still outside, the summertime's in bloom. Still out beside the fireplace. Take that look from off your face, 'cause you waited a little bit. 'Cause I'm so sadly can't wait. She knows it's too late as we're walking all night. She said the dreams I had went to my head. Stepped outside the summer times in blue.
C'était Don't Look Back in Anger, morceau d'Oasis sorti en 95 et repris ici par un groupe séparé en 1970 et dont l'un des leaders, John Lydon, est mort en 1980, soit 15 ans plus tôt que cette chanson. Mesdames et messieurs, vous venez évidemment donc d'entendre un morceau créé entièrement par l'intelligence artificielle avec les algorithmes qui ont travaillé pour redonner corps et vie aux Beatles. Je voulais évidemment vous solliciter Thomas de Vogel sur le fait que maintenant, et YouTube est un puits sans fond, on peut s'y perdre très rapidement. Je m'y suis moi-même un peu perdu avec des bizarreries incroyables comme celle-ci, les Beatles qui reprennent un morceau d'une époque qu'ils n'ont pas connue.
C'est certain que ça peut faire peur et que pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, de texte généré, on peut te faire dire n'importe quoi demain.
C'est ça.
À partir du moment où on a 2-3 minutes, voilà. Microsoft avait une application comme ça qu'ils voulaient mettre en vente et même eux ont été effrayés. Donc ils ont prévu de l'utiliser uniquement pour faire du doublage de films.
Ok.
Donc voilà, et pour tout ce qui est sinon, voilà, on enregistre une conversation téléphonique avec son voisin. Et après, on peut faire un message faux de son voisin qui nous dit n'importe quoi.
Dans le domaine artistique, donc vous venez d'entendre ce morceau. Et puis, vous parliez de doublage. Je crois qu'il y a aussi pas mal de peur, notamment des doubleurs de films d'animation, puisqu'on va pouvoir synthétiser des voix et on n'aura plus besoin forcément, notamment pour le doublage, pas encore pour le cinéma, mais pour le doublage, on pourra effectivement solliciter, les producteurs pourront solliciter l'intelligence artificielle.
Ah, c'est certain.
Ça a été au cœur des grèves hollywoodiennes l'automne dernier, ouais.
C'est sûr que pour les doubleurs, c'est un vrai gros problème. Donc même quand tu parles les scénaristes, donc les IA ont un problème, c'est qu'ils font des hallucinations, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous parler de choses qui n'existent pas. Mmh. Et donc, par exemple, si tu as vu une série avec une dizaine d'épisodes et tu demandes à l'IA de te résumer le 11e épisode,
il va le faire
tout à fait. Et des fois il y a des scénaristes qui ont regardé ce qu'avait fait l'IA, ils disaient super, j'ai envie de l'écrire cet épisode là et donc pour dire que c'était même de bonne qualité, qu'ils trouvaient des idées qui étaient intelligentes et que le scénariste trouves
quand
pertinentes
on a,
à développer.
Quand on a des milliers d'heures, comme on peut avoir des milliers d'heures d'écoute disponibles, notamment des Beatles, il est donc très facile de pouvoir reprendre les voix de John Lennon, McCartney et tout ça pour les mettre sur un morceau qu'ils n'ont pas connu et qu'ils n'ont pas créé.
Même sans milliers d'heures, parce qu'en vérité, à partir du moment où il y a des milliers d'heures d'autres personnes et qu'on arrive à rajouter juste les 3-4 paramètres qui font que c'est ta voix à toi et pas la voix de quelqu'un d'autre. Donc pour avoir ces 3-4 paramètres, il faut 5-6 minutes, pas plus.
Ok.
Donc à partir de 5-6 minutes, plus des milliers d'heures d'autres personnes, ça suffit.
Très bien. Ça pose évidemment la question du droit. Que dit le droit sur l'intelligence artificielle et l'utilisation qu'on peut en faire, notamment dans ces cas-là?
Alors ça tourne énormément de domaines, parce que là tu parles du droit d'auteur, mais c'est des droits juridiques de responsabilité, des droits de propriété intellectuelle. Donc il y a énormément de domaines touchés. Donc si on touche là-dessus, il y avait quelqu'un qui avait essayé de faire un logiciel qui trouvait tout ce qui était harmonieux. Et il avait généré des millions de musiques en prenant ce principe d'harmonieux. Donc à partir du moment où c'est harmonieux, il crée une musique. Il en a créé des millions. Il a voulu les déposer aux États-Unis. On lui a dit non, c'est pas possible quand même. Donc parce qu'il faut que, pour que ça soit une création, il faut que ça soit fait par un humain. Donc ça, c'était un premier problème. Donc on disait que pour apprendre, il lui faut des milliers d'heures. Donc ces milliers d'heures, il y a des propriétés derrière, hein, les journaux ou des textes qui ont été écrits par des personnes qui ne sont pas forcément libres de droit. Et donc la plupart des pays, pour l'entraînement des IA, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc si c'est pour entraîner. Par contre, si le texte qui est généré à la fin est trop proche du texte qui a permis l'entraînement, eh ben là, il y a un vrai problème de droit d'auteur. Et donc, il pourrait être rémunéré pour ça, mais pas pour la partie entraînement.
Est-ce que Paul McCartney, par exemple, je reprends l'exemple de la chanson qu'on vient d'écouter, pourrait poursuivre en justice le créateur de ce morceau-là? Est-ce qu'il aurait raison de le faire? Est-ce que c'est légalement possible?
Alors, je pense que là, après, c'est des problèmes juridiques que je ne maîtrise pas forcément, mais je pense que comme des personnes qui ont copié d'autres ont repris la musique, ont repris les parties et ont perdu des procès, il y aura le même genre de problème. Donc c'est juste, est-ce que c'est une copie ou est-ce que c'est quelque
création.
Chose? Voilà, donc si on a repris sa signature vocale, est-ce qu'il est propriétaire de sa signature vocale? Donc ça, c'est encore un autre problème. Et si c'est une création, voilà, donc il y a plein de droits. Mais après, sur les droits, il y a des domaines énormes, hein, donc... Dans les procès récents intéressants, il y a une compagnie aérienne qui vient de perdre un procès parce que son chatbot a répondu à un client en des bêtises.
Ok.
Donc, il lui avait dit, voilà, il partait en urgence pour l'enterrement d'une de ces personnes de sa famille. Il a pris un tarif normal, alors que la compagnie faisait un tarif spécial obsèque, en disant, est-ce que je peux me faire rembourser par la suite la différence? Le chatbot lui a répondu oui, et donc c'était faux. Et donc, la compagnie, elle disait, ah non, non, mais c'est juste le chatbot, c'est pas moi. Et la compagnie était jugée responsable.
Et puisqu'elle est légalement détentrice, juridiquement détentrice de ce robot conversationnel. L'Artificial Intelligence Act de l'Union européenne a été acté par la communauté européenne en décembre dernier avec une application prévue en 2025. Parmi les plus réticents, la France et l'Allemagne qui avaient peur de bloquer le développement de leurs propres outils, notamment, vous en parliez Thomas, donc Mistral AI. Quelles solutions ont les États pour légiférer sans censurer dans une certaine mesure dans une société libérale comme la nôtre?
Alors c'est très différent. Alors l'Europe, elle a pris un apport qui est plutôt sur les conséquences. Donc elle a fait 4 niveaux et c'est assez original, hein, parce que c'est en fonction des conséquences. Donc il y a des choses, c'est inadmissible. Donc, par exemple, pour influencer les résultats politiques, pour faire la surveillance de masse, on en parlait avec les Jeux Olympiques, pour les notations sociales, dire est-ce qu'on doit vous accorder un crédit en fonction de ce que vous avez fait, tout ça. Donc, c'est interdit normalement en Europe avec cette loi-là. Après, il y a des risques élevés. Donc, tout ce qui est lié à l'emploi, tout ce qui est lié à l'éducation. Donc là, il faut déclarer et il faut en plus montrer qu'on n'a pas de biais important. Donc ça, c'est la deuxième. Et le troisième, c'est tout ce qui est risque dit limité. Donc les chatbots, c'était dans les risques limités. Donc tous ces outils qui répondent à des questions où vous ne savez même pas forcément si c'est un humain ou une machine qui vous répond derrière quand vous posez une question à votre opérateur téléphonique ou ainsi de suite. Donc ça, c'est des risques limités. Normalement, il faut juste prévenir que c'est une machine qui répond. Et après, il y a des risques qui sont conjugués contre tout à fait minimal. Par exemple, les jeux vidéo, les filtres anti-spam. Et donc là, c'est même plus la peine de dire que c'est une IA qui est derrière et qui a traité.
Est-ce que je me souviens à la grande époque de la création d'Adopi, est-ce que les tentatives de régulation, de légiférer sur les nouvelles technologies notamment, ne sont pas systématiquement en retard sur l'usage qui est fait des nouvelles technologies, et donc la législation est toujours derrière?
Là, on le voit, l'Europe était en avance dans ce domaine-là, en termes de législation.
Ouais.
Et ils ont mis les chatbots dans la catégorie numéro 3. Et après, est arrivé ChatGPT. Et ChatGPT, ils se sont aperçus, c'est pas si anodin que ça. Ça peut prendre des décisions importantes. Et est-ce qu'on aurait dû le laisser dans la catégorie donc admissible comme problème? Est-ce qu'il faudrait le faire remonter? Et donc, ça pose des vraies questions. Et voilà, c'est même pas encore mis en place, qu'il y a déjà un outil qui a révolutionné tout et qui fait que les quatre catégories qui semblent intéressantes et bien délimitées, elles sont perméables.
Et est-ce que c'est illusoire de croire qu'on va pouvoir cadrer du coup
cet usage-là ? Je pense que c'est comme tu parlais du silex, c'est vieux comme le monde.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a augmenté le bouclier, on a fait un nouveau glaive et c'est une course sans fin.
Ouais.
Donc à chaque fois qu'on trouvera un nouveau problème, il y aura une nouvelle façon de faire la juridiction dessus et il y aura une nouvelle façon de contourner la juridiction. Donc c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour d'autres choses. Après, avec l'IA, c'est que ça va peut-être beaucoup plus vite que dans d'autres domaines et qu'il y aura encore plus de retard que dans d'autres domaines.
Chaque semaine dans La Lorgnette, on vous propose une recommandation, un podcast, une émission, un reportage ou un documentaire. Cette semaine, je vous propose un court extrait de l'émission Leçon de géopolitique, une sous-émission du Dessous des cartes présentée par Émilie Aubry. On écoute tout de suite.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler plus précisément comment l'intelligence artificielle est l'outil préféré des dictateurs d'une certaine manière, puisque pour pratiquer le contrôle social, au fond, c'est le meilleur adjuvant.
Le cas d'école, c'est la Chine. La censure fait que ça empêche d'avoir une forme d'hétérogénéité des données et donc une meilleure performance des systèmes algorithmiques et d'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que donc les investissements ont beaucoup basculé vers la technosurveillance. Les systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui en Chine vont venir doper, booster tous les outils de contrôle social. Vous avez le crédit social, bien entendu, vous avez le quadrillage de l'espace public par la reconnaissance faciale, le contrôle des réseaux sociaux, et avec une forme d'amende extrême pour les géants technologiques qui ne respecteraient pas les règles de promotion, disons, des valeurs socialistes. Et l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, est un outil de contrôle de la population, de contrôle de ce qui est dit, de contrôle de vos opinions politiques. Et ce que je relèverai enfin, et sur lequel il faut vraiment être vigilant, c'est que, et à raison d'ailleurs, nous essayons, nous, de défendre nos valeurs d'État de droit en démocratie libérale occidentale. Eh bien, il y a une tentation d'un certain nombre d'États, mais même en France, de commencer à, disons, industrialiser aussi l'usage de technologies d'hypersurveillance qui sont dopées à l'intelligence artificielle. Et il faut que donc ceci fasse vraiment l'objet d'un vrai débat public éclairé.
À présent, avec vous, Asma, on a envie de comprendre en quoi l'intelligence artificielle pourrait faire courir un risque majeur aux deux grands scrutins qui sont devant nous, en Occident du moins, les élections européennes en juin et bien sûr la présidentielle américaine en novembre prochain.
Il va y avoir deux grands axes, mais on les voit déjà en réalité, bien sûr, tout le champ des cyberattaques. Pour déstabiliser le fonctionnement des élections, le service de des administrations, des portails d'administration, pour en fait créer de la dissension. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis le deuxième volet, peut-être le plus délicat, c'est évidemment la question informationnelle, c'est-à-dire en fait toutes les campagnes de désinformation, d'ingérence, de micro-ciblage, et qui vont évidemment être dopées à l'intelligence artificielle, parce qu'on évoquait les deepfakes, les faux sites, les faux contenus, les faux profils, mais en quantité industrielle.
Je voulais me concentrer sur ce qui était dit donc dans cette émission, le dessous des cartes, leçon de géopolitique, et vous faire réagir évidemment Thomas là-dessus. Donc on parle de cyberattaque évidemment, notamment dans des moments clés et des scrutins qui sont à venir.
Alors ça, des cyberattaques, c'est un premier problème. Mais c'est plus la puissance de calcul qui est importante pour faire ces cyberattaques. Après, c'est juste sur les réponses, sur ce genre de choses, où on voit très bien qu'on peut avoir des réponses qui vont s'adapter plus rapidement avec des systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est certain. Moi, je pense que le deuxième problème qu'elle soulève, qui est tout ce qui est fausse information,
le levier informationnel,
et être capable de générer des faux vrais comptes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement en faire un faux personnage avatar d'un réseau social où on verra très bien que c'est une machine, on va lui donner une vraie réalité, on va lui donner un nom, on va lui donner une profession,
on va générer ses photos de vacances, un CV sur LinkedIn,
voilà,
etc.
Et on va lui générer plein de messages anodins, et ce compte-là pourra en plus relayer tout un ensemble d'informations qui seront plus ou moins fausses et plus ou moins intéressantes pour un des candidats. Donc il y a déjà une société qui fait ça et qui propose des services dans ce domaine-là.
Ah d'accord, donc il y a une société qui propose, qui emploie des gens pour vérifier, débunker, contrôler...
Non, pour reproduire.
Ah oui, pour produire, d'accord, ok. Et donc ça, la vérification, le débunkage, c'est à l'initiative des citoyens dans la mesure des possibilités.
Bah tout à fait, c'est pareil qu'on peut développer...
Et c'est là que le bât blesse, quoi.
On peut développer des intelligences artificielles pour essayer de truquer, ouais. Et on peut essayer de développer des intelligences artificielles aussi pour essayer de démasquer ces trucages. Donc, elle serait capable de savoir si cette information est vraie ou fausse. On peut aussi utiliser ce même outil dans un sens ou dans l'autre.
Et on en revient à l'éducation aux médias. On va en parler aussi de l'éducation aux médias et notamment de l'éducation à l'informatique et à l'intelligence artificielle. Vous êtes professeur.
Oui.
Dans quelle mesure, comment on travaille, comment on éduque à toutes ces questions-là, l'éthique, la morale au niveau informatique et de l'intelligence artificielle au sein de l'Université de Tours?
Donc on a une licence qui est très généraliste et après on a un master qui est lié à tout ce qui est sciences des données. Donc on traite des très gros volumes de données avec des applications et avec des biais qui sont bien connus. Et donc on essaye de sensibiliser via des cours d'éthique. Donc en Master 2, on a un cours d'éthique qui est très bien reçu par les étudiants. Ils sont vraiment intéressés et qui est une ouverture vers plein de biais. Donc il y a des biais qui sont très connus. Par exemple, des choses qui sont passées récemment. On peut avoir Amazon, son système de recrutement qui avait trop de CV. Et donc, comme il a appris avec une base où il y avait énormément d'hommes sur des postes à responsabilité, le système a appris que pour avoir un poste à responsabilité, il fallait être un homme. Et donc, il ne proposait jamais de poste à responsabilité aux femmes. Donc voilà, un biais sexiste classique. On a des biais là qui étaient assez récents. Donc si on veut corriger ce biais sexiste, par exemple, l'intelligence artificielle de Google a dit « il n'y a pas assez de personnes de couleur dans les photos que je propose ». Donc, elle a rajouté des personnes de couleur dans tous les domaines. Très bien, on a créé un nouveau biais, ils ont mis des SS de couleur. Donc, parce qu'il fallait générer de toutes les personnes. Donc là, ça ne va pas non plus. Donc, même en corrigeant un biais, on peut créer d'autres problèmes.
Et on se rend compte que le problème est sans fin. Vous sentez une curiosité, un intérêt pour la question éthique de vos étudiants sur toutes ces questions-là? Ça les inquiète, ça les concerne, le fait qu'on puisse désormais presque tout faire avec l'intelligence artificielle et l'outil informatique et qu'on doit poser des limites et que c'est peut-être eux qui détiennent les clés dans leur future structure, dans leurs futurs emplois.
Je pense que les jeunes générations sont quand même plus sensibilisées à ce genre de problématiques, à ce genre de réflexion. Après, est-ce qu'ils ont un esprit critique sur ce qu'ils font? Pas toujours.
Ouais.
Donc voilà, certains l'ont. Et réfléchissent avant de faire quelque chose. Et d'autres, on fait quelque chose et après, on vu ce que ça pouvait avoir comme conséquences.
Pour presque terminer, je lisais aussi, on n'a pas parlé de la question de l'emploi, de ce que l'intelligence artificielle va détruire ou va créer. Je pense qu'il y a beaucoup de chiffres et je ne sais pas s'il est facile de s'y retrouver. En tout cas, en septembre dernier, cette annonce-là avait fait plutôt grand bruit. L'entreprise Onclusif, qui s'appelait auparavant Kantar, va réduire de moitié ses équipes chargées de la veille médiatique officiellement pour les remplacer par des ordinateurs. Client majeur, le gouvernement annonce qu'il interrogera l'entreprise sur les garanties qu'elle entend fournir pour maintenir le niveau de ses services. Donc là, on touche aussi à un poste clé qui est le poste de l'emploi et de ce qu'il va créer et de ce qu'il va détruire au niveau du travail.
Ben, c'est un vrai gros problème dans le sens où avant, les révolutions d'avant supprimaient des emplois qui étaient dits laborieux, qui étaient fatigants. Alors que les IA actuelles permettent de supprimer des emplois où on était plutôt en col blanc et pas en col bleu.
Des emplois de cadre.
Voilà, ouais. Des emplois de cadre et ainsi de suite. Mmh. Et ça tourne sur différents problèmes. Premièrement, dans n'importe quel domaine où on doit consulter des documents, résumer des documents pour répondre à des questions, on parlait avec ces IA génératives, ça offre des possibilités très intéressantes. Après, ça dépend quelle est la tâche. Donc si on prend une tâche, fais-moi la jurisprudence dans tel domaine, ben, une IA qui a lu toute la jurisprudence va faire ça beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement qu'un jeune juriste. Mmh. Le problème, c'est que ce jeune juriste qui l'aurait fait, ça lui aurait permis aussi de monter en compétences pour après accéder à des tâches que là, l'intelligence artificielle ne fait pas. Donc on va perdre des postes qui sont plutôt, on va dire, intellectuels, mais de premier niveau, et on va perdre aussi les compétences pour faire monter des personnes sur des postes de niveau supérieur.
Et empêcher la prise d'expérience.
Ok, je veux bien, on peut remplacer, mais le problème, c'est qu'en remplaçant, on va couper la branche aussi pour former les personnes à des tâches plus expérimentées, où là, actuellement, il n'y a pas d'IA, et je ne pense pas forcément qu'il y en ait une.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des sujets qu'on n'aurait pas évoqués sur le sujet de l'intelligence artificielle et qui vous semble pertinent de mentionner alors qu'on touche
à la fin ? Après, l'IA, c'est vraiment un sujet qui est très très vaste. Il y a énormément de choses. Donc celui qui nous dit qu'est-ce qui va se passer en IA dans 20 ans, c'est
et puis 20 ans, c'est loin, vitesse de l'IA.
Dans 5 ans, ouais. Je pense qu'avant ChatGPT, même un an et demi, pas grand monde aurait cru que ça pourrait aller aussi loin. Il y avait déjà des systèmes qui étaient pas mal, mais c'était une poussée qui a repris des systèmes existants et qui l'a, on va dire, l'industrialisé avec une masse de données qui a permis d'aller beaucoup plus loin avec des problèmes qui sont liés à de plus en plus de données, de plus en plus de calculs. Et donc, ça veut dire que ça pose aussi des problèmes énergétiques. Donc, actuellement, ces larges modèles, donc ces LLM, donc comme ChatGPT, et ainsi de suite, ça consomme en termes d'électricité, en termes d'eau, des quantités monstrueuses.
C'est le serveur stocké dans le désert du Nevada.
Après, on peut les stocker à des endroits où c'est moins pire. Oui. Mais ça consomme énormément. Et actuellement, chacun veut développer sa propre IA. On va réapprendre exactement les mêmes choses. Donc, c'est d'un point de vue énergétique et d'un point de vue écologique une catastrophe. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut faire pour réguler tout ça ? C'est un autre problème.
Un problème que nous ne solutionnerons pas ici tous les deux dans le local de Studio ZEF. Merci beaucoup Thomas De Vogel d'être venu jusqu'ici. Donc vous êtes enseignant-chercheur et responsable du Master 2 informatique de l'Université de Tours, basé ici à Blois. On se quitte, la lorgnette se termine comme chaque semaine avec le journal de bord d'un élu local. Gaël Bernard et Nicolas Orgelet reçoivent pour le dernier épisode de ce cycle avec Delphine Benassi sur le sujet de la coopération internationale. À 18h, c'est comme tous les jeudis La Roxette avec l'ami Christophe. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lorgnette. Les programmes continuent sur Studio ZEF. À très bientôt. Merci à tous et à toutes.
Journal de bord d'un élu local. C'est l'épisode 108, coopération internationale et solidarité. Avec notre invité Delphine Benassi. C'est parti.
Salut Gaël.
Nicolas, cette semaine, on reçoit Delphine Benassi. Bonjour Delphine.
Bonjour Delphine.
Bonjour Delphine.
Bonjour.
J'avais dit que je jouais pas avec ce truc là, mais je pense que là ça, c'était à propos. Ouais. Delphine, t'es vice-présidente de la région Centre-Val de Loire.
Oui.
Et puis c'est à la culture et à la coopération internationale, et on a fait 3 épisodes sur la culture, et ça serait peut-être pas mal qu'on parle de coopération internationale.
Tout à fait. Et oui. Puis comme on a que 10 minutes sur nos épisodes, on s'est dit qu'on allait peut-être prendre un angle spécifique du fait de l'actualité sur Blois, où il y a la question des enfants à la rue, et où voilà, on s'est pas mal mobilisé sur ce sujet-là. Et je sais que par la coopération internationale, à la région, tu t'es un peu mobilisé aussi sur ce sujet de l'accueil inconditionnel.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît ?
Oui. Alors, effectivement, donc la région, elle mène aussi depuis de nombreuses années une politique de coopération et de solidarité internationale importante. C'est un de ses marqueurs forts. Et pour moi, en fait, on ne peut pas être solidaire à l'international sans être solidaire sur notre territoire avec les personnes étrangères qui y arrivent. Et donc, c'est important pour moi qu'on puisse promouvoir et porter, voilà, de façon très volontariste, les questions d'accueil inconditionnel et digne des personnes étrangères sur notre territoire. La région, elle a été membre fondatrice de l'ANVITA, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, qui a été fondée par Damien Carême, donc élu, ancien maire de
Grande-Synthe,
qui s'était mobilisé donc sur pour l'accueil des
migrants
des
près migrants, de Calais.
Voilà, près de Calais. Et donc l'association, elle a été créée pour fédérer des territoires qui s'engagent justement sur ces questions d'accueil digne et inconditionnel, pour porter un message, un plaidoyer, en fait, vis-à-vis de l'État notamment, pour avoir les moyens d'une politique d'accueil digne des personnes qui arrivent sur nos territoires.
Tu veux dire pour être humaniste, quoi.
Voilà, c'est ça. De considérer les personnes étrangères comme des êtres humains.
Et du coup, ça sert à quoi de faire partie de l'ANVITA ?
Alors, ça sert à partager des expériences entre territoires. Alors, il y a 3 régions seulement qui sont adhérentes, hein, nous qui sommes membres fondateurs, la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Occitanie.
D'accord.
Me semble-t-il. Et sinon, c'est essentiellement des communes, quelques départements.
Des villes comme Bourges, dont on vient de parler dans le précédent épisode.
Voilà, Bourges qui, effectivement, a voté en fin d'année dernière son adhésion à l'ANVITA. Et on est très heureux. Elle rejoint Tours dans la région.
Okay.
On a à cœur de créer... voilà, un réseau de collectivités adhérentes au sein de notre territoire pour porter haut, en fait, ces valeurs
D'accueil inconditionnel.
D'accueil inconditionnel, voilà, exactement.
Et donc, à la région, donc c'est quelque chose qui se construit seulement, tu peux pas encore nous dire ce qui va être fait, mais il y a un diagnostic déjà qui est fait pour voir où sont les trous dans la raquette, dans cette capacité d'accueil, tu me disais.
Oui, en fait, on a fait... un état des lieux de ce qui se passe sur notre territoire régional en matière d'accueil et d'intégration des personnes étrangères. Donc, à la fois par les acteurs associatifs, par les collectivités, par l'État, l'idée c'est de voir voilà, tout ce qui est fait en matière d'accueil, enfin, d'hébergement, d'éducation, d'apprentissage de la langue, de formation, d'accès à l'emploi, accès aux droits, mobilité. Voilà. Et comment la région, en fait, elle peut prendre une place dans cet écosystème pour améliorer l'accueil et l'intégration. Donc voilà, on est à l'état de... Enfin, au moment de l'état des lieux et du diagnostic aujourd'hui. Et d'ores et déjà, en fait, notre région a signé avec l'État un contrat territorial d'accueil et d'intégration début 2023. On est la première région à le faire. Sur les questions de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi des personnes primo-arrivantes, Donc les primo-arrivants, c'est les personnes réfugiées ou titulaires d'un titre de séjour qui sont sur le territoire depuis moins de 5 ans. Enfin, c'est la définition de l'État. Et donc, c'est de voir comment on construit avec elles des parcours de formation adaptés, tenant compte de leurs souhaits, de leurs compétences, de leurs diplômes, pour les accompagner vers l'emploi le plus rapidement possible. Et en passant par une case pour celles qui ne sont pas francophones d'apprentissage de la langue. Donc c'est une première en fait en France, voilà, signature de ce contrat entre une région et l'État, donc sur une compétence régionale très forte qui est celle de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, pour accompagner donc cette intégration, cette insertion des personnes sur notre territoire. Et donc l'idée, ça sera peut-être de mobiliser d'autres compétences de la région pour intervenir sur, pour continuer à améliorer ces conditions d'accueil et d'intégration.
Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est là tu dis, tu t'appuies sur une compétence de la région qui est celle de la formation professionnelle pour pouvoir permettre l'accès à l'emploi et donc l'insertion. Mais nous, Ville de Blois, on n'a pas... si je reprends le sujet des enfants à la rue, ce qui s'est passé, c'est moi un jour, mes enfants qui sont dans une école du centre-ville, ils ont découvert qu'ils avaient certains de leurs camarades qui allaient devoir dormir dehors parce qu'ils n'avaient pas de solution de logement et que la préfecture, qui normalement doit faire la mise à l'abri des familles, ne la faisait plus en disant qu'il n'y avait pas assez de logement et tant pis pour ceux qui restent, quoi. Et donc c'est finalement des parents d'élèves et des enseignants qui se sont mobilisés pour dire que c'était pas normal de laisser des enfants dormir dehors, de pouvoir laisser des enfants dormir dehors, et qui se sont mobilisés pour alerter les pouvoirs publics et essayer de faire en sorte de les mettre à l'abri. Et au final, c'est nous, Ville de Blois, qui avons fait la mise à l'abri de familles dans des logements, dans des bâtiments dédiés normalement à la jeunesse. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est pas notre compétence. C'est vraiment, en fait, finalement, la ville se retrouve à pallier les manquements de l'État dans ses compétences. Sur la protection de l'enfant, c'est le département jusqu'à 3 ans qui doit mettre les enfants à l'abri. Et là encore, il y a des questionnements sur les moyens qui sont mis sur la protection de l'enfance. Mais après 3 ans, c'est la mise à l'abri par l'État. Et c'est pas fait. Donc les villes se pallient à ça. Mais ça pose un questionnement aussi, parce que quelque part c'est des moyens financiers que la ville doit mettre à la place de l'État, donc au détriment d'autres politiques publiques, parce que l'État fait pas son boulot. Voilà, ça pose question, quoi. Même sur le temps long, comment ça peut durer sur le temps long, parce que des familles, il va y en avoir d'autres, et en même temps on doit le faire au nom de cette commune humanité des valeurs de la République, quoi, de la fraternité, voilà.
Oui, alors la région, de la même façon, c'est associé à la ville, en fait, pour mettre à disposition un logement dans un lycée qui était vacant, à disposition d'une famille, pour la mettre à l'abri. De la même façon, donc, en effet, c'est pas sa compétence. Et c'est bien là qu'on retrouve toute l'utilité d'une structure, d'une association comme l'Envita, en fait, qui permet de fédérer des collectivités qui ont ce souci de l'accueil dans de bonnes conditions des personnes, parce qu'il faut dire que les personnes qui sont à la rue, les enfants qui sont à la rue, sont le plus souvent issus de familles étrangères. Et c'est là qu'on, voilà, on fait le lien évidemment entre ces différents sujets. Et donc s'associer au sein d'une structure nationale pour porter un plaidoyer auprès de l'État. Voilà, c'est plus on sera de nombreux, de collectivités nombreuses à nous associer au sein de cette structure, plus on pèsera en fait vis-à-vis de l'État. Et quand on voit l'adoption de la loi immigration et de le recul des droits pour les personnes étrangères qu'elle implique, il y a urgence en fait à se mobiliser collectivement sur ces questions-là.
Mais moi, dans les politiques publiques que je suis, notamment il y a l'alimentation. Et par exemple sur l'aide alimentaire, on a de plus en plus de bénéficiaires de l'aide alimentaire, ça explose, avec de moins en moins de dons. Et dans cette aide alimentaire, il y a notamment tous ceux qui n'ont plus accès aux droits, qui sont
à quel droit,
parfois issus de l'immigration, par exemple au droit de travailler, tout simplement, parce que sans papier tu ne peux pas avoir de travail. Et ça pose une vraie question, parce que finalement, t'as des gens qui se retrouvent du coup privés de leurs droits, et donc sans papier, donc sans existence juridique, mais qui sont quand même là, et on décide de pas les voir, de faire comme s'ils n'existaient pas, donc ils vont à l'aide alimentaire, parce qu'on leur donne pas les moyens de s'insérer. On va leur reprocher de pas s'insérer, mais on leur en donne pas les moyens, alors que y a des besoins en emploi, il y a des besoins, voilà, c'est, et puis ces gens-là ont un droit à la dignité, tu vois, et finalement... autoriser des régularisations, ça simplifierait tellement de choses, ça, plutôt que d'avoir, voilà, que laisser les associations essayer de pallier tant bien que mal au manque, parce que c'est pas à les laisser dans les rues sans papier qu'on va résoudre le problème, au contraire, on nourrit même des réseaux, je veux dire les réseaux de prostitution, les réseaux de travailleurs non déclarés, c'est des réseaux presque mafieux en France qui vivent de ça, de ce rejet qu'on a de ces gens dont on ne veut pas entendre parler, donc on ne veut pas voir, mais qui seront quand même là, parce que quand ton pays est en guerre ou pas vivable pour des questions de changement climatique ou autre, de toute façon tu vas pas y retourner, hein, donc soyons, et on est la sixième puissance mondiale en termes de PIB, donc on a quand même les moyens d'accueillir plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ça pose un vrai question de solidarité, et aujourd'hui les logiques de préfecture, c'est de dire on a une enveloppe financière, quand cette enveloppe est dépassée on ferme tout et tant pis pour ceux qui restent dehors, et ça pose une vraie question de dignité, quoi.
C'est ça, et c'est aussi un regard sur l'autre, hein, sur l'étranger. Aujourd'hui on le présente comme soit un délinquant en puissance, soit une main d'œuvre, en fait, et il n'y a pas d'entre deux, alors que c'est des personnes qui viennent voilà, chercher des meilleures conditions de vie pour elles, pour leurs enfants, et qu'on n'a pas évidemment à juger, et qui sont une richesse en fait pour notre société, qui amène de nouvelles compétences, qui amène un regard différent, qui viennent voilà, enrichir nos façons de répondre à des besoins, et donc c'est vraiment voilà, considérer ces personnes comme une richesse pour nos territoires, et c'est ce regard-là qu'on doit absolument changer, et il faut qu'on aille contre ce discours qui est devenu dominant, qui est la reprise d'arguments de l'extrême droite, hein, cette façon de considérer l'étranger comme un délinquant ou un travailleur uniquement, et qu'il n'y a pas d'entre deux.
Oui, avec ce discours d'immigration choisie où on va prendre que ce qu'on veut et les autres on va les laisser, et non pas considérer que chaque être humain a le droit juste d'exister, de vivre, de se déplacer. Et donc d'avoir juste un droit de vivre et d'exister dignement, et là on est beaucoup dans l'immigration choisie, on ne prend que ce dont on a besoin, et voilà. Je trouve ça triste,
c'est une politique, c'est la politique d'immigration de délivrance des visas aussi, qui doit être questionnée en fait, pour éviter en effet à des personnes de venir sur notre territoire illégalement, parce qu'elles viendront en fait, on le voit d'une manière ou d'une autre, elles viendront, donc c'est les accompagner au mieux en fait, et leur délivrer dès le départ l'autorisation de venir et de circuler comme elles le souhaitent.
Et ce que je trouve assez triste, je finirai peut-être par là, c'est que moi ce que j'ai vu dans notre école et dans d'autres écoles de la ville de Blois, c'est que les citoyens spontanément s'organisaient pour être accueillants, pour faire en sorte que ces enfants dorment pas dehors, qui étaient juste pour eux rien d'autre que des compagnons d'école de leurs enfants. Et en fait, on a eu spontanément des mouvements de population qui se sont mobilisés pour trouver des solutions. Et derrière, on a la loi travail qui, plutôt que d'encourager ces logiques... qui, plutôt que d'encourager ces logiques de solidarité et d'entraide, va encourager... plutôt les discours de repli et de chacun ses soi et de rejet de l'autre, qui sont tout l'inverse de nos valeurs. Et c'est triste. En fait, j'ai l'impression que l'État, où nous, on a une députée, Mathilde Jonquière, qui nous a dit qu'elle serait en soutien, etc. Et puis pourtant, qui a voté pour cette loi, qui va tout à fait à l'inverse de ces mouvements de solidarité spontanée qui sont beaucoup plus porteurs d'espoir dans l'avenir oui. que ces mouvements de repli sur soi qu'on voit partout sur la planète, quoi.
Donc peut-être qu'on peut se dire aussi que les citoyens et les citoyennes sont concernés de façon différente que, on va dire, les politiques, ou n'ont pas forcément la vision.
Ben, je pense qu'ils essayent de répondre à ce qu'ils sentent comme une volonté populiste. Je pense vraiment que c'est une girouette en fonction du vent. Ils ont l'impression que le vent tourne vers le repli sur soi et donc il faut suivre ça.
Alors c'est qu'en le gouvernement fait, là, dont tu parles.
Ouais, voilà. Mmh. Alors qu'en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de gens qui sont comme nous, qui pensent d'abord à l'humain qu'ils ont en face d'eux. Et que quand tu connais les gens, eh ben, tu sors de l'image que tu te fais pour aller dans la réalité de quelqu'un que tu connais et que tu as envie d'aider, quoi, et que tu peux aider. Voilà. Et c'est quand même dommage que Blois ne veuille pas adhérer à Envita alors que la région le fait, que Bourges le fait, que Tours le fait. Je le passe au passage parce que ça fait un peu plus d'un an que j'en parle avec Marguerite Cour, que j'aimerais bien que la ville de Blois adhère à l'Envita parce que on a ouvert un local, mais à un moment donné, il faut avoir des politiques publiques de long terme pour organiser cet accueil. Il faut militer avec les autres villes pour porter un autre discours auprès du gouvernement. Et je pense que ce collectif, cette association Envita, a un vrai rôle à jouer et j'aimerais bien que la ville adhère. Donc Marc, si tu nous entends, je t'en refais la demande ici officiellement. Ça serait quand même super bien qu'on adhère.
Et ben on va terminer là-dessus.
Ouais, merci.
Oui, merci beaucoup à vous de nous avoir parlé de tout ça. Et ben à une prochaine.
À une prochaine. Hein?
Merci Delphine.
Merci. Salut.
Salut Nico.
Salut Gaël.
On peut écouter les épisodes sur les applis de podcast. Et il y a plus de 100 épisodes. Vous pouvez l'écouter sur Studio Zef 91.1.
Dans l'émission La Lorgnette. Retourne-moi et Clémentine. Et aussi écouter les épisodes sur Blois Capital.
Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à Clément et à Jules. Et si vous êtes sur Studio Zef tout de suite, c'est les Roxettes.